Ensuite, Alfred, catalogue Hitchcock, numéro 2.
How do you do? I'm Alfred Hitchcock.
I see humor in everything.
Last night, I dreamt I went to Mandalay again.
Suspense, shameless suspense.
Adolescente, j'avais vu Les Oiseaux et je me souviens très bien d'avoir vu un très beau film, mais de ne pas avoir eu très peur de ces fameux oiseaux. Rien, en tout cas, qui se rapprocha de la terreur promise par les affiches. Ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai tremblé, plusieurs semaines après le film. Assise sur un banc, regardant une bande de pigeons rassemblés dans un coin du jardin public. Depuis, j'ai peur de tout groupe d'oiseaux et je tremble à chaque fois que je revois le film. Pourquoi tant de bonheur? Pourquoi à chaque fois le même ravissement, le même sentiment de bien-être, succédant au même frisson, au même vertige? Quand les spectateurs crient en voyant mes films, cela me rend très heureux, cela m'amuse beaucoup, disait Hitchcock. Et il ajoutait, la logique profonde de tous mes films, c'est de faire souffrir les spectateurs. Hier, l'enfance et l'adolescence d'Hitchcock, ses débuts de dessinateur d'intertitres puis de réalisateur de films muets. Ce soir, obsession, perversion, petit rappel des faits avec sa fille Patricia Hitchcock.
Alors, il est passé des dessins. Il a pas exactement écrit les scripts, mais il est devenu assistant réalisateur dans les films. Et ça, ça a commencé à l'époque avec Blackmail, qui était un des premiers films parlants. Mais je crois que c'est là qu'il est devenu réellement au premier plan, surtout pour les Américains, quand il a fait Les 39 Marches et Lady Vanishes. Et c'est là qu'il a rencontré David Selznick et qu'il est allé aux États-Unis en mars 39. C'est là qu'il a fait Rebecca. À partir de là, il a été pris sous contrat aux États-Unis. Donc il a quitté l'Angleterre parce qu'il a eu ce contrat de David Selznick. Il est parti en mars 1939. En septembre, la guerre était déclarée. Et pendant la guerre, il est revenu faire des films pour la France libre. Mais il est devenu citoyen américain parce qu'il avait ce contrat aux États-Unis. Et il pensait très fortement que si on gagnait sa vie dans un pays, il fallait y payer ses impôts. Il ne fallait pas en profiter et aller ailleurs. C'est pour ça qu'il n'est jamais retourné vivre en Angleterre.
Last night, I dreamt I went to Mandalay again. It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive, and for a while I could not enter, for the way was barred to me. Then, like all dreamers, I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me. The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done. But as I advanced, I was aware that a change had come upon it. Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers. On and on wound the poor thread that had once been our drive. And finally, there was Mandalay. Mandalay, secretive and silent. Time could not mar the perfect symmetry of those walls. Moonlight can play odd tricks upon the fancy. And suddenly it seemed to me that light came from the windows.
Bruno Villien.
Hitchcock est donc né à Londres en 1899 et il est parti pour Hollywood, où on l'avait invité depuis le début des années 30, juste à la veille de la guerre. Donc il a saisi l'opportunité d'un film qu'on lui proposait là-bas, mais il a aussi évidemment saisi l'opportunité de partir avec sa femme et sa fille à un moment où l'Europe allait être mise à feu et à sang, et on le savait très bien. Mais il a donc tourné tout de suite un film. D'ailleurs, le premier film qu'il a tourné, Rebecca, il dit lui-même, c'est un film anglais. C'est pas tout à fait vrai, mais c'était un film qui se passait en Angleterre avec que des acteurs anglais presque, sauf John Fontaine. Et alors ensuite, il a continué à tourner. Il faut pas oublier qu'il a tourné pendant la guerre des films patriotiques qui poussaient, par exemple, les Américains à intervenir en Europe avant Pearl Harbor. Et qu'il a tourné trois films qui sont des films purement politiques, patriotiques et historiques, qui sont sur la guerre elle-même. Et ça n'a pas empêché que les Anglais, la presse anglaise, une partie de la presse anglaise a mené une campagne très dure contre les Anglais qui étaient partis juste avant la guerre. Alors il n'y avait pas seulement Hitchcock, il y avait aussi des actrices, des acteurs. Et Hitchcock a été extrêmement blessé de ces attaques, surtout qu'elles venaient de gens avec qui il avait déjà travaillé dans les années 20 et les années 30. Alors je pense que c'est à ce moment-là, quand il a eu l'opportunité de retourner à Londres, début 44, donc la guerre n'est pas encore finie, il est retourné à Londres et à ce moment-là, il a dirigé deux films dont aussi qui sont invisibles en France, et pourtant ils ont la particularité d'être des films, les seuls qu'il ait fait entièrement en français. Ce sont deux films qui durent environ une demi-heure chacun, et ce sont des films faits par commandés par les Français de Londres, c'est-à-dire les gaullistes de Londres, destiné à être projeté en France pour faire comprendre aux Français l'action de la résistance au moment où la guerre se termine. Alors c'est très très intéressant d'un point de vue politique et historique, et c'est tellement intéressant qu'il y a un de ces deux films qui a été interdit au moment même et du coup n'est jamais sorti ni en Angleterre, ni en France, ni nulle part. L'autre, il y en a un des deux qui est sorti par contre en France, c'était montré en début de programme avec un grand film. Et alors, le film qui a été interdit, c'est particulièrement savoureux parce que c'est l'histoire vraie, et c'est pour ça qu'il a été interdit, des luttes entre les gaullistes et les pétinistes à Madagascar. Et Madagascar ayant été libéré, entre guillemets, par les Anglais à la grande fureur du général de Gaulle, le film tourné par Hitchcock était trop près des événements et s'inspirait de personnes réelles. Les personnes réelles en question, qui étaient évidemment des militaires ou des gaullistes, se sont reconnues, et le film a été bloqué, et je l'ai vu par des ruses... varié à Londres. Mais par exemple, pour vous donner un exemple, quand Hitchcock a eu 80 ans et qu'à Londres, sa ville natale, la Cinémathèque a organisé une énorme rétrospective, ces deux films français, qui sont des films très rares, avaient été annoncés. Et à la dernière seconde, le soir même, j'y étais, le film dont je viens de vous parler, qui s'appelle Aventure malgache, a été annulé. Alors l'autre film de la résistance, c'est très très intéressant aussi, ça s'appelle Bon Voyage, et c'est l'histoire d'un agent double qui travaille pour la Gestapo en se faisant passer pour un résistant, et qui est chargé en France de convoyer un aviateur écossais qui a été parachuté en France pour aider la résistance. Et naturellement, à la fin, une fois que l'agent double a découvert tout le réseau de résistance, il vend le réseau et ils sont tous tués, mais l'aviateur écossais réussit à s'échapper, et le film commence au moment où il fait le récit à Londres, donc chez les gaullistes de Londres, de ce qui lui est arrivé. Et alors, ce qui est très Hitchcockien dans ce film, c'est qu'il raconte sa version des événements, il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Et puis après, on voit la vérité. Donc on revoit deux fois les mêmes faits, une fois raconté par quelqu'un qui a été trompé, et une deuxième fois ce qui s'est réellement passé. Ce qui fait que c'est une caractéristique de Hitchcock, il y a une manipulation extraordinairement habile, à la fois des personnages du film et donc des spectateurs.
Je me rappelle quand il est venu et je me rappelle qu'il nous racontait des histoires de sa traversée dans l'avion. Il était assis par terre, il devait rester réveillé tout le temps parce que si on ne restait pas réveillé, on pouvait se cogner la tête, on se coupait l'oreille et personne ne saurait plus si vous étiez vivant ou mort. Il n'a rapporté aucun souvenir en soi de la guerre. Il était très perturbé, ça je me rappelle, le jour où la guerre a été déclarée. Et il a essayé d'appeler sa mère et on lui a dit « C'est impossible de vous passer la communication parce que ce pays est en guerre. » Et ça, c'était quelque chose de terrible, un sentiment d'isolation terrible. On ne pouvait pas passer.
Est-ce que tu es sûr qu'Alicia n'ait pas calculé son coup? La capture du riche Alex Sébastien valait le voyage.
Elle ne savait pas que j'étais arrivé ou tu es injuste avec elle.
Nous discuterons cette question plus à fond ce soir.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet. D'ailleurs, tous ces sentiments de crainte et de défiance sont uniquement dus à ton éternelle jalousie. Tu as toujours fait preuve d'une étonnante mauvaise foi pour toutes celles que j'approche. Il est donc inutile de vouloir discuter.
Tu es donc absolument décidé à épouser cette femme.
Je veux que ce mariage ait lieu avant 8 jours. Je n'invite personne. Mais si tu veux bien l'honorer de ta présence, nous en serons heureux.
Les enchaînés, c'est la question que pose le film, c'est qu'est-ce qu'on fait des nazis ? Une fois que la guerre est finie. Et ça commence par le procès d'un grand dignitaire nazi qui se suicide. Et le film est centré sur l'histoire de sa fille, qui est Ingrid Bergman, et sur les néo-nazis du Brésil. Et donc ça se passe d'abord aux États-Unis, à Washington, dans le contre-espionnage américain, qui charge Ingrid Bergman non seulement de séduire, mais d'épouser un nazi qui est au Brésil pour démanteler le réseau là-bas. C'est le conflit entre l'amour qu'elle éprouve pour l'agent américain Cary Grant et son mariage et le meurtre que petit à petit sa belle-mère nazie va essayer de commettre.
Alors, est-ce qu'on peut dire justement qu'il y a eu des films réellement engagés politiquement dans l'œuvre de Hitchcock?
Tout à fait. Et à chaque période, il s'est engagé d'une manière différente jusqu'à la fin de sa vie. Donc, au début, il a commencé dans les années 20 et dans les films muets et jusque dans les films des débuts des années 30, il n'y a pas, à mon sens, de réel engagement politique. Mais ça commence très vite au moment de ce qu'on a appelé la montée des périls, c'est-à-dire à partir de 33, à partir de Mussolini, l'arrivée au pouvoir de Mussolini et de Hitler. Là, Hitchcock se lance dans des films tout à fait engagés. Et par exemple, un film comme Une femme disparaît, qui est un film très, très, très célèbre comme divertissement, quand on le revoit, et en prenant des notes comme je l'ai fait, on s'aperçoit que les allusions politiques sont extrêmement précises. Ça commence dans un pays qui, pour des raisons évidentes, n'est pas nommé, mais qui est évidemment l'Autriche. Et on parle alors par contre, Hitler, on en parle, et il est nommé. Et c'est donc un film anti-hitlérien tout à fait déclaré. Et il en a fait d'autres. Il a fait un film sur les espions, qui montre comment les espions agissent à Londres et comment certains Anglais eux-mêmes travaillent pour les pays de l'Axe.
Bonsoir, Dave.
Mes hommages.
Vous connaissez notre installation?
Non, c'est un petit cottage délicieux.
Venez visiter la maison.
Tout à l'heure, le maître nous regarde. Monsieur Devlin.
Bonsoir, monsieur.
Heureux de vous voir.
Votre femme a été très aimable de penser à moi.
Vous êtes mon invité aussi, monsieur Devlin. Veux-tu veiller à ce que monsieur Devlin ne manque de rien? Connaissez-vous le... Oh, excusez-moi. Madame Estorix, c'est très gentil à vous d'être venue.
Ça va être très difficile.
Pourquoi?
Il a l'air nerveux. Il ne va pas nous quitter des yeux de la soirée.
Oui, sa jalousie est toujours en éveil.
Vous avez enlevé la clé de son trousseau?
Oui.
Espérons qu'il y aura assez de vin, qu'il ne descendra pas en chercher d'autres.
Oh, j'aurais dû penser à cela.
Il faut y penser.
He wasn't political at all.
Il n'était pas du tout politisé. Voilà.
I really don't know... What he voted
je ne sais vraiment pas pour qui il votait aux États-Unis. Je pense que parfois il votait pour les démocrates, parfois pour les républicains. Je sais qu'une fois il est entré dans un bureau de vote, il a mis tout le monde en état de choc parce que bon, en entrant, il a dit pourquoi est-ce que vous n'avez pas un A. Alors il savait pas du tout de quoi il parlait. Ils lui ont demandé de quoi il parlait. Il a dit vous devriez avoir un A pour anarchie et ils sont tous morts de rire. Mais il n'était pas du tout politisé. Il n'avait aucun sens politique particulier.
Ladies and gentlemen, with your kind attention and permission, I have the honor of presenting to you one of the most remarkable men in the world.
How remarkable? He's sweaty.
And can you be surprised at that, gentlemen? Every day he commits to memory 50 new facts. And remembers every one of them. Facts from history, from geography, from newspapers, from scientific books, millions and millions of them. Think of the strain involved by his prodigious feats.
His feet ain't half as big as yours, Cully.
I'm referring to his feats of memory.
Oh.
Test him, please. Ladies and gentlemen, ask him your questions, and he will answer you fully and freely. Mr. Memory.
Archives Radio France, Radioscopie, 18 janvier 71, Jacques Chancel, Alfred Hitchcock.
The self-indulgent cinémaste.
Oui, personnellement, il est contre le cinéma fait pour se satisfaire soi-même.
You see, many young men come into the cinema and behave like painters.
Oui, beaucoup de jeunes gens viennent au cinéma et se conduisent comme des peintres.
They think that their individuality.
Ils se prennent pour des individus, enfin pour une individualité.
Will show in their films.
Et qu'ils veulent absolument montrer dans les films qu'ils réalisent.
And I think it's more complicated than that.
Et M. Hitchcock pense qu'en vérité, c'est beaucoup plus compliqué que cela.
You see, my approach to the film is what it originally was, the newest art of the 20th century.
Sa conception du film à lui et la manière dont il le réalise, c'est vraiment en tant que l'art le plus neuf du 20e siècle.
And one of its great abilities was to reach people all over the world on the same night.
Et l'un des grands avantages du cinéma, c'est de pouvoir atteindre les gens du monde entier la même nuit.
After I have commenced to design a film for the widest possible audience, the next step is the artistic one.
Oui, après avoir conçu un film qui peut plaire à tous les publics du monde, ensuite il s'occupe du côté artistique.
In other words, if I may put it another way, the craft comes before the art.
À son avis, la partie artisanale vient avant la partie artistique.
So few murderers are caught.
Well, Mr. Anthony, you seem very interested in the subject of murder.
Well, no more than anyone else. No more than you, for instance.
Me? Oh, I'm not interested in murder.
Oh, come now. Everyone's interested in that. Everyone has somebody that they want to put out of the way. Oh, now, surely, madam, you're not going to tell me that there hasn't been a time that you didn't want to dispose of someone? Your husband, for instance?
Good heavens, no.
Are you sure? Do you mean to tell me that there wasn't a tiny moment when you were made very angry? What did you say? there you are, you see? There you are. Now, you're going to do a murder. How are you going to do it? That's the fascinating part. How are you going to do it? I didn't get your name.
Mrs. Cunningham.
Mrs. Cunningham, how are you going to do it?
Well, I suppose I'll have to get a gun from somewhere.
Oh, no, Mrs. Cunningham. Bang, bang, bang all over the place. Blood everywhere.
How about a little poison?
Yes. Oh, that's better. That's better, Mrs.
Anderson.
Oh, that's better, Mrs. Anderson. But you see, Mrs. Cunningham's in a dreadful hurry. Poison could take anywhere from 10 to 12 weeks if poor Mr. Cunningham is going to die from natural causes.
François Truffaut.
Il pensait que le public de cinéma doit s'identifier pour prendre le plus de plaisir possible. Et lui-même avait besoin de s'identifier aussi. Donc son thème favori, étant donné qu'il était l'anti-aventurier, le contraire d'un aventurier, eh bien son thème favori, c'était l'homme innocent accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait, quelle que soit cette chose, et qui se trouve incapable de justifier, donc va être obligé de prendre la fuite. Voilà, ça c'était le thème dans lequel qu'il inspirait le plus lui et dans lequel il avait le plus confiance pour intéresser les gens. Et ses grands succès, quand on regarde, sont sur ce thème-là. À part quelques films qui sont sur des coupables, des psychopathes, comme Psycho, Anthony Perkins dans Psycho, où là aussi il pouvait s'intéresser à quelqu'un alors qui représentait le mal. Mais enfin, c'était plus rare. Le thème favori, c'était l'innocent pourchassé.
À un moment, Hitchcock vous dit « Moi, ce que je veux, c'est faire des films sans trous ni taches. » Comment faut-il comprendre ça?
Ah oui, oh, c'est magnifique, ça. J'aime beaucoup cette expression parce que ça va avec une autre expression aussi qu'il emploie tant en temps. Il dit « compléter la tapisserie ». J'ai fait ça pour compléter la tapisserie. C'est l'idée que, parce que le film se déroule et qu'il ne doit pas y avoir de creux, il ne doit pas y avoir de moments plats, ça doit être passionnant. C'est l'idée que le film ressemble à un train. Ce train est composé de wagons et ces wagons doivent être accrochés le mieux possible et le train ne doit jamais s'arrêter. C'est une idée que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que un livre, on peut s'arrêter, revenir en arrière. La mort de Madame Bovary, qui s'empoisonne à l'arsenic, est très lente et très lente. Et je suppose qu'à ce moment-là, le lecteur fait un effort d'accélération parce que cette mort est trop lente pour nous à arriver au terme de cette histoire qui a quand même été magnifique et un des plus beaux romans du monde, mais je pense qu'on fait une accélération de lecture qui fait qu'on va plus vite. Mais au cinéma, il ne peut pas y avoir accélération puisque la pellicule défile à la même vitesse. Donc c'est au metteur en scène de prévoir les moments où il peut ralentir, les moments où il doit accélérer. C'est aussi pour ça que le cinéma est un art qui s'accorde mieux à la fulgurance les morts lentes marchent mal au cinéma, vous voyez. On aime mieux voir quelqu'un qui est en train de téléphoner paisiblement dans une cabine de téléphone et la cabine explose. On préfère voir ça que de le voir souffrir les affres d'un empoisonnement. Alors c'est ça que Hitchcock voulait dire, sans tache ni trou, c'est-à-dire sans tache d'ennui.
Surprise et le suspense. Pour le surprise, par exemple, il y a dans cet studio une bombe. Nous parle pour 5 minutes et la fin de 5 minutes, la bombe explose. C'est une surprise. Pour suspense, le public connaît la bombe est là et dans 5 minutes la bombe explose. C'est suspense. J'aime le suspense.
Pascal Bonitzer.
C'est un grand inventeur de formes, comme disait d'ailleurs Romère et Chabrol dans l'ouvrage qu'ils avaient consacré. C'est l'inventeur d'une forme particulière le suspense n'est pas sa création, son invention personnelle, au sens où c'est Griffiths qui a plutôt inventé le suspense, mais il l'a élaboré d'une façon absolument unique et spécifique. Il a inventé des images inouïes, enfin tout à fait inédites, et en particulier un type d'image très particulier. Par exemple, c'est cette image de fenêtre sur cour, lorsque dans un espace naturel et banal, brusquement une image surgit qui fait basculer, disons, tout l'espace dans un univers autre, un univers inquiétant. C'est cette image, par exemple, de la fenêtre avec le point rouge du cigare, qui est le signe du crime, simplement. Il y a aussi, il y a de façon beaucoup plus simple, par exemple, on sait que le film Correspondant 17 est parti d'une idée, une image. Qui était que dans la campagne hollandaise, où on voyait des moulins à vent, on pouvait imaginer que l'un de ces moulins avait les ailes qui tournaient dans le sens contraire du vent. Donc c'est ça, si on veut, ce sont des images un petit peu contre nature, ou des images paradoxales, à partir de quoi toute la fiction s'organise autour.
You know, I read of a case once. I think it would be a wonderful idea. I can take him out in the car, and when we get to a very lonely spot, knock him on the head with a hammer, pour gasoline over him and over the car, and set the whole thing ablaze.
Then have to walk all the way home? Oh, no, no, no. Oh. I have the best way and the best tools. Simple, silent, and quick, the silent part being the most important. Let me show you what I mean. You don't mind if I borrow your neck for a moment, do you?
Well, if it's not for long.
Now, when I nod my head, you just try to cry out, and I'll bet you can't do it. All right, now. Just wait for the nod of my head.
Le MacGuffin, c'est presque le prétexte du film. En tout cas, quand il s'agit de films d'espionnage. Alors, on va parler pendant tout un film d'espionnage du fameux secret que détient telle personne. Et à un certain moment, on s'apercevra que ce secret, c'est peut-être une formule de je sais pas quoi, de d'uranium, ou l'adresse d'un hangar atomique, ou n'importe quoi. Eh bien, lui dit, ça c'est le prétexte, et le prétexte, il ne faut pas y attacher d'importance. On en parle tout du long, ça aide le film à avancer, ça alimente le film, mais ça n'a pas de réelle importance, parce qu'en fait, les gens s'en foutent. Ce dont les gens s'occupent, c'est le caractère des personnages, l'aventure, ce qui leur arrive, s'ils sont en danger, comment ils sortent de danger quand ces dangers se présentent. Mais le MacGuffin n'a pas d'importance. Et il donne cet exemple justement à propos de Notorious, parce que dans Notorious, le MacGuffin, c'était que dans la cave de l'espion nazi, joué par Claude Rains en Argentine, et que cet espion nazi que Ingrid Bergman se trouvait obligé d'épouser, dans sa cave, il y avait des bouteilles, et parmi des bouteilles de vin rare, et parmi ces bouteilles, certaines contenaient l'uranium. Enfin, c'était le début de... C'était quand on commençait à parler des bombes atomiques. Et plusieurs producteurs avaient été offusqués en lisant le scénario par cette histoire d'uranium dans des bouteilles de vin. Et Hitchcock s'était fâché parce qu'il savait qu'il avait raison et qu'une fois le film fait, enfin le résultat sur l'écran, ça n'aurait pas tellement d'importance et qu'en tout cas on accepterait ce postulat.
Somebody once said to me, why do you call it then a MacGuffin?
Oui, quelqu'un lui a posé la question, pourquoi appelez-vous ça MacGuffin?
Two men were riding in a train from London to Scotland.
Deux hommes étaient dans le train qui allait de Londres en Écosse.
And one man sitting opposite in the, you know, the compartment said to the other man, "What is that package above your head?"
Alors, un des voyageurs demande à celui qui est assis en face de lui, mais qu'est-ce que vous avez dans ce paquet qui est sur le filet au-dessus de votre tête?
And the other man, "Oh," he said, "that's a MacGuffin."
Et l'autre lève la tête et dit, "Oh, c'est un MacGuffin."
So the first man says, "Well, what is a MacGuffin?"
Alors le premier demande, mais qu'est-ce que c'est qu'un MacGuffin?
So he said, "Well, it's an apparatus."
Yeah, c'est un appareil.
"For trapping lions."
Pour attraper les lions au piège.
"In the Scottish Highlands."
Dans les hautes terres d'Écosse.
So the first man said, "But there are no lions in the Scottish Highlands."
Mais l'autre lui dit, mais il n'y a pas de lions dans les Highlands écossais.
So the other man said, "Well, then that's no MacGuffin."
Alors bon, ben dans ce cas, c'est pas un MacGuffin du tout.
Qu'est-ce qui se passe?
Du sable d'une bonne année. Ne faut laisser aucune trace. Cherchez-moi vite une bouteille de vin qui ait la même étiquette que les autres.
Ça n'est pas du sable, n'est-ce pas?
Mais non, c'est du minerai.
Peut-être qu'il faudrait différencier aussi la vraisemblance et la plausibilité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une histoire invraisemblable, il fait peut-être très attention à la plausibilité, vous voyez. L'invraisemblance, ça peut être la donnée de départ. C'est-à-dire, ce qui est invraisemblable dans les films d'Hitchcock, c'est que je ne sais pas quoi, moi, un meurtre ayant été commis et un personnage entrant dans un bistrot, bah dans le bistrot justement on est en train de parler du meurtre. Vous voyez, c'est ça que je trouve, moi, des coïncidences. Et je dis, à ce moment-là, les films ressemblent un peu à des grilles de mots croisés parce que tout se recoupe horizontalement, verticalement. Voilà, c'est souvent ce monde-là, Hitchcock. Mais après, il arrive à nous imposer ça, c'est arbitraire au fond, ces données arbitraires. Il arrive à nous les imposer à force de vérité dans le détail. Il y a aussi une chose à laquelle j'ai mis longtemps à m'habituer parce qu'elle m'agaçait. C'était lorsque un crime a été commis. Bon, dans l'entourage de ce crime, il y a une jeune fille qui, elle, n'a rien à se reprocher, mais simplement elle fait partie de cet entourage. Et le flic qui mène l'enquête va tomber amoureux de la jeune fille. La jeune fille va tomber amoureuse de lui. Alors je disais, c'est trop simple, il y a quelque chose qui ne va pas là dans cette coïncidence. Alors là, il luttait. Il disait, c'est parce qu'en Europe, vous avez un préjugé contre la police, mais nous, en Amérique, nous l'aimons bien. Quand je l'entreprenais là-dessus, il luttait un peu de cette façon-là. Oui, parce que je disais, oui, c'est vrai, en France, on a un effort à faire pour trouver sympathique que la jeune fille tombe amoureuse du policier.
Obsession, il y en a beaucoup. Alors, il y a celle dont on a déjà parlé dans sa vie, il y a toutes les formes de nourriture. Il y a évidemment tout ce qu'on peut, dans les formes de perversion, dans toutes les perversions amoureuses, il y a les menottes, il y a les femmes qui sont un peu enchaînées ou battues ou malmenées. Il y a toutes sortes de perversions l'amusaient beaucoup. Les perversions ne sont jamais montrées uniquement sous un angle dramatique. Parmi les films qu'on va ressortir, il y en a un qui s'appelle La Corde, qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, qui a cette particularité qu'il est tiré d'une pièce de théâtre des années 20, donc Hitchcock l'avait vu, qui elle-même est tirée d'un fait divers réel qui s'était passé à Chicago. Et alors, c'est l'histoire de deux jeunes gens qui tuent un troisième pour le plaisir de faire un très beau crime. C'est ça l'histoire de La Corde. Alors c'est quand même évidemment très très provocant comme histoire. Surtout que Hitchcock, alors là je trouve d'une manière très très machiavélique, montre cette histoire. Évidemment, il prend certaines précautions morales. Il y a un carton au début, il y a un carton à la fin pour dire que c'est pas bien du tout de tuer son prochain. Mais il fait quand même une sorte d'apologie du crime d'esthète, tout en le dénonçant par le personnage de James Stewart, qui est le professeur, qui en fait, par son enseignement, on le comprend, a poussé ces deux garçons jusqu'au bout de l'esthétisme, donc le crime gratuit comme celui que Gide raconte dans les caves du Vatican. Alors on peut appeler ça une perversion, évidemment.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a un côté moral dans les films d'Alfred Hitchcock ?
Ah, bien, un côté non seulement moral, mais ce qui est beaucoup plus agréable, très amoral. Puisque donc Hitchcock, apparemment, comme il n'aimait pas les policiers, il les a très souvent montré les contradictions dans la vie des policiers. Et il a fait ça aussi pour les prêtres, pour les juges, enfin bref, pour tout ce qui représente le pouvoir ou l'autorité. Alors c'est évidemment très très amoral, même si pour préserver les apparences, on prétend le contraire.
Il aimait toutes sortes de films. Quand il ne travaillait pas sur un film, il allait voir au moins un film par jour. Il aimait la plupart des films. Ce qu'il n'aimait pas, c'était ce qu'il appelait les exercices de réalisateur. Il aimait les films distrayants. Il aurait adoré E.T. Ça aurait probablement été un de ses films préférés. Parce que réellement, ce qu'il respectait, c'était n'importe quel réalisateur. Et c'était aussi ce qu'il essayait de faire. Ce qu'il respectait, c'était la distraction pure, sans le moindre message. Alors vraiment, si quelqu'un veut lire un message, c'est très bien, mais aucun de ses films n'a été fait avec un message intentionnel. C'était de la distraction pure. Il voulait intégrer le public. C'est pour ça que il utilisait des personnages de la vie courante. Il voulait que quand vous alliez au cinéma, vous pensiez que c'était à vous que c'était arrivé, et pas à quelqu'un d'étrange sur un écran. Il fallait que ce soit à vous que ça arrive.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans certains de ces films, il y a quand même des messages? Je pense par exemple à La loi du silence ou même à La corde.
Je pense qu'effectivement, il y a des messages, mais je pense que ça n'était pas intentionnel. J'aimerais dire que oui, peut-être, mais d'après ce que je sais, après l'avoir entendu parler, et surtout pour La corde, c'était vraiment fait d'un point de vue technique. Ce qu'il voulait voir, c'était si il était possible de photographier un film comme une pièce de théâtre. Et je crois qu'aujourd'hui, on lit des messages, et je pense que c'est très bien, mais ils n'étaient pas intentionnels.